France Inter.
En allant chercher des sports urbains comme le breakdance et le skateboard, on va vraiment chercher des sports qui cartonnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent énormément.
Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Ce sont aussi des sports qui apportent une vraie dimension très spectaculaire et très différente des sports qui sont déjà au programme.
C'est un coup de peinture fraîche sur les épreuves des Jeux Olympiques. Un coup médiatique aussi. Le breakdance s'installe en 2024 entre le triple saut, la natation et les barres parallèles au milieu des épreuves prévues à Paris. Avec un parc urbain qui doit voir le jour sur la très chic place de la Concorde et des danseurs considérés comme des athlètes. La discipline, née dans les rues de New York il y a exactement 50 ans, se structure. Les danseurs continuent de s'affronter dans des battles, des défis. Ils improvisent toujours des figures sur des musiques qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Mais ils sont désormais affiliés à la Fédération française de danse avec une équipe nationale, des entraîneurs et un engouement inédit.
Avant, c'était simplement, on avait beaucoup de gens qui baignaient dans le hip-hop. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a des gens qui sont attirés, mais qui ne sont pas forcément de cette culture. Et il va y avoir encore plus de visibilité avec l'effervescence qu'il y a sur les JO. Ça va nous permettre à nos écoles et à nos associations, tout simplement, de se développer.
Et ce n'est pas qu'une question d'image. Les Jeux Olympiques coïncident aussi avec l'arrivée de sponsors, vêtements, boissons et l'une des grandes banques françaises qui finance même désormais les activités de 7 sportifs catégorie breakdance. Mais au-delà de la manne financière, l'institutionnalisation de la discipline est loin de faire l'unanimité.
Ça dénature le hip-hop. C'est trop académique, trop institutionnel, trop sportif. C'est une culture qui vient de la rue. La mentalité, c'est dans cette culture, elle est violente. Tu veux la respectabilité ? Porte tes couilles, montre que t'es présent, montre que t'es une tête, montre qu'on doit te respecter. Parce que sinon, t'as un mec qui danse mais t'as pas d'histoire.
Conserver l'aspect artistique, social du breakdance tout en visant les podiums, voilà l'enjeu pour ces danseurs, ces b-boys et ces b-girls réunis pour les meilleurs d'entre eux il y a quelques semaines au Palais des Sports de Paris devant 5000 personnes. Breakdance, de la rue aux Jeux Olympiques, c'est un reportage de Vanessa Descoureaux avec une prise de son de Nicolas Mathias.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Je vous entends, je veux que le nom prend pour cette finale crew. Yes. Faites un maximum de bruit. Ce soir, ce sera à la Corée du Sud face à la Hollande. Faites un maximum de bordel pour un seul qui. Yes. J'entends rien.
Qu'est-ce qui vous amène ici,
mademoiselle, qui fait du hip-hop depuis à peu près 2 ans, même la 3e année, et qui est fan. Et moi, je suis fan de danse depuis l'âge que j'ai 4 ans. Donc, plutôt moderne jazz, pas trop hip-hop, mais m'a initiée au hip-hop. Donc,
il y a
voilà.
Cette fibre commune entre mère et fille,
oui,
la danse.
Exactement. Et on voulait absolument pas rater ça.
Alors, vous qui avez pratiqué une danse plus classique, qu'est-ce qui vous plaît
encore.
Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline beaucoup plus acrobatique encore?
L'effort physique qui est très intense, et je le vois quand elle danse aussi un petit peu. La souplesse et puis aussi l'intensité des personnes qui vont danser. Et ce qui est intéressant effectivement avec la danse, c'est que ça lie le sport et l'art. Et c'est pour ça que moi, depuis l'âge de 4 ans, et j'ai 47 ans, je fais toujours de la danse, et 2 fois par semaine.
Bravo et félicitations. Mademoiselle, quel âge as-tu, toi ?
8 ans.
8 ans. Donc depuis 2 ans déjà, tu fais du breakdance ? Qu'est-ce qui te plaît ?
Les figures, tourner en l'air, faire des figures sur la tête, danser, jouer, et faire du sport aussi.
C'est tout à la fois, alors ?
Oui.
Je crois qu'on vous appelle dans le public. Bon spectacle.
Merci
à tout le monde. Bon après-midi. Pour ceux qui ne jurent que par la langue française, soyons clairs, le vocabulaire des breakers va vous dérouter parce que vous avez par exemple le top rock. Là, le danseur est debout, il prend le rythme du son qu'il découvre parce qu'il improvise. Vous avez également le footwork, là c'est toute la partie du travail au sol. Vous avez également les freezes. Les freezes, c'est quand le breaker s'arrête net, comme ça, d'un coup, en fin de mouvement, pour maintenir une position qui, bien souvent, on va le dire, défie les lois de la gravité. Et je résiste pas au plaisir non plus de vous parler du head spin qui consiste, en résumé, à faire la toupie sur sa tête.
Joël Blanc, je travaille dans le monde du sport, des aquarelles en direct depuis très très longtemps, depuis une vingtaine d'années. Je suis sur le terrain et je peins en direct les joueurs, les sportifs, les tennisman. Je suis très souvent à Roland-Garros, au rugby. Et là, c'est un vrai défi pour moi, ça va d'une vitesse folle. C'est pire que Nadal ou Federer. Hein.
En rapidité d'exécution.
Ah oui, non, bah, c'est fou. Là, il faut la mémoire visuelle encore plus parce que les attitudes et les danseurs, c'est complètement fou. Ils ont un défi, mais c'est la danse de demain. On marche déjà sur la tête, alors autant que la danse marche sur la tête aussi. Hein. J'ai beaucoup peint le patinage artistique quand il était à Paris, très souvent. Et je trouve qu'il y a une analogie avec évidemment moins de bruit. Mais le patinage artistique, c'est très cadré, c'est répété, c'est toujours les mêmes gestes. Tandis que là, il y a un défi, il y a un concours, c'est vraiment la hargne, hein. Ils en veulent. Hein.
C'est pas à vous que je vais apprendre que cette discipline sera olympique
dans quelques mois
à Paris. Oui. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est du
coup. Oui, il est temps que l'olympisme change. Et Pierre de Coubertin, il doit être content.
Change et se rajeunisse aussi, hein, puisque dans le public, on voit des très jeunes gens.
Ah oui. On voit des gamins, ils ont 5-6 ans, ils se démènent. Moi, je suis arrivé avant. Je suis arrivé une heure avant ou deux heures avant pour voir l'ambiance et les lumières, tout ça. Et je voyais des gamins, et ils dansaient déjà. Et ils ont 5 ans, 6 ans, c'est de la folie.
Pour votre première ici à dessiner du breakdance, vous n'êtes pas déçu? Vous êtes content
non,
de votre moment?
Emballé.
Si le breakdance remplit des salles, il se structure également au niveau fédéral. Quand le CIO l'a choisi pour en faire une discipline olympique, il a fallu constituer, et même assez vite, une équipe de France. Ils sont une vingtaine de danseurs et de danseuses à avoir rejoint l'élite, représenté la France dans de multiples compétitions internationales pour gagner des points afin d'améliorer leur classement mondial. On retrouve une partie de cette équipe lors d'un entraînement à Asnières, en région parisienne.
7 et 8, t'as failli tomber. Tu vois ça, t'as jamais ça travaillé ça de ta vie.
Je m'appelle Sia Dembélé, j'ai 15 ans et mon nom de big girl c'est Sissi. Et je viens de Saint-Etienne et je fais partie du groupe Matching Force.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi de rejoindre l'équipe de France?
Déjà qu'il y ait une équipe de France, j'aurais jamais pensé que ça arriverait un jour. Et d'y faire partie avec mon grand frère, déjà, c'est un truc de fou en fait. Je m'en rends pas compte, c'est incroyable et ça nous a apporté beaucoup de choses. Ça va faire avancer le breakdance.
Ça te fait avancer toi-même dans ta pratique, ce sérieux autour de toi, cette structure?
Oui, c'est vrai que on me prend plus au sérieux. Après, sans l'équipe de France, je prenais déjà au sérieux, mais je trouve que là, avec un encadrant, ça fait un peu comme si on est des pros. Voilà.
Ça t'a donné des ambitions que tu n'avais peut-être pas avant?
Les JO. Déjà, je savais pas qu'il allait avoir le breakdance aux JO. Du coup, c'est incroyable.
C'était un rêve déjà avant, le rêve olympique, ou il est né depuis que le breakdance a rejoint l'Olympisme?
Je regardais les JO à la télé quand j'étais petite et je faisais de la gym. Du coup, je regardais plus la gym et j'aurais jamais pensé que le breakdance du coup soit aux JO. Du coup, non, c'était pas forcément dans ma tête de faire les JO un jour. Et comme c'est rentré, là, je me suis dit, ça serait bien, quand même, un petit objectif. Là, ça devient un rêve.
Tu l'as dit, hein, dans ta famille, toi et ton frère, vous avez rejoint ce pôle d'excellence de l'équipe de France. Comment vous êtes tombés dedans, tout petit, tous les deux?
Alors, mon grand frère a commencé avant moi. Il faisait de la capoeira avant. Il voulait quelque chose de plus acrobatique. Du coup, il a fait du breakdance. Comme moi, du coup, comme je l'ai dit, je faisais de la gym. Et du coup, j'allais souvent le voir à ses compétitions et je trouvais que la gym, c'était un peu strict, un côté un peu strict. Un jour, j'ai essayé le breakdance et depuis, j'ai pas lâché. Et mon objectif, c'était de battre mon grand frère un jour.
Et alors, vous en êtes où, là, dans la famille?
Ça dépend. Un coup, il me bat, un coup, je le vois. Ça va.
C'est ce qu'on appelle de la saine émulation.
C'est ça.
Bonjour. voit le coach. Pour les petits détails de fin d'entraînement. Là, le coach, il est en train de danser surtout.
Kiki ! Donne-moi ce bras, là ! Oh ! Ah, t'as un staps ! T'as un sportif !
J'en ai un, il a l'air pas mal.
De l'en mode cool, hein, force pas trop.
Hein ?
De l'en mode cool.
Ouais.
Donne pas tout la vie.
En plus, c'est départ, c'est ça. Et après, j'ai rajouté un truc. Voilà, pense à la finition.
Mais vas-y, là. Fais pour l'instant juste ça.
C'est Mathéo qui s'élance, là.
C'est parti. La révise. Elle a prépa avant la Coupe de France, hein.
Et pour le petit détail, là.
C'est assez secoué pendant deux jours, là. Donc aujourd'hui, on va y aller cool. Ils ont plus eu des cours techniques sur la nutrition, le sommeil, la récupération avec Liamine et David, les préparateurs physiques. Et cet après-midi, bah, comme il y avait la venue de DJ One Up, on a préféré partir sur un petit délire chill. Entraînement, relâchement.
C'est léger là.
Voilà, clinage, c'est léger là. Parce que comme demain il y a le gros charbon, on voulait pas les envoyer au casse-pipe. Arriver demain avec le corps courbaturé. Et... Donc voilà. Alors, moi c'est Yann Salim Abidi. Donc je suis entraîneur national. Et moi je m'occupe d'une quinzaine d'athlètes dans toute la France.
Demain, c'est Coupe de France à Cergy. Ça veut dire quoi pour le vainqueur et la gagnante de cette coupe ?
Bah, c'est une possibilité de rentrer dans l'équipe de France directement, sans chemin de sélection. Donc, c'est une carte à jouer. Donc, voilà.
Qu'est-ce que ça vous fait à vous qui n'avez pas appris à danser dans les mêmes conditions qu'eux, hein ? Vous n'aviez pas les mêmes structures. Voilà, vous faites partie de la génération qui a connu quasiment les débuts de la culture hip-hop en France. Ça fait plaisir de les voir comme ça. Il y a un peu de jalousie de les voir aussi bien encadrés. Quel est votre sentiment par rapport à ces deux générations-là ?
Moi, j'ai un ressenti chez certains où il y a eu un peu des envieux, il y a eu des gens contents, il y a eu un peu de tout en fait. Après, moi, si je parle en mon nom et personnellement, bah moi, à la place où je me retrouve, je peux que être super content, hein, parce que je suis un mec qui a fait un peu toutes les portes de la danse. C'est-à-dire, j'étais dans les compagnies musicales, dans la transmission, dans le coaching, puis dans les compétitions, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Et donc, il y a eu des débouchés qui ont existé déjà depuis plusieurs années dans les théâtres, l'intermittence du spectacle et tout ça. Donc, mais par contre, là, que les compétiteurs arrivent à ce niveau technique et que derrière, il y a un tel suivi avec les sponsors, le médical, la science, mais c'est magnifique. Et moi, c'est une fierté parce que pour moi, je suis une des personnes en France qui a participé à tout ça. Donc, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à tout le monde. Mais on sait qu'on a mis nos touches dans le truc. Mais voilà, déjà, jusqu'au JO, il y a un chemin de sélection. Et pour sélectionner, faut gagner des championnats du monde, des championnats d'Europe et des séries. Donc, c'est pas que les JO, c'est toute l'année, plein de compétitions.
Sélectionner 3, vous faites comment ? Par rapport à quoi ?
Non, en fait, c'est le ranking là à partir de Manchester.
Ranking, c'est classement. Ouais.
Mais après, ranking international, t'as pris des points.
Bah maintenant, je suis bas, non ?
Non, t'as 220 ah ouais points, je crois, un truc comme ça. Pareil, toi aussi, t'as 200 et quelques.
C'est quoi le truc déjà ? C'est
WDSF. Oui.
C'est la Fédération Internationale de Danse.
Olympique qualification ranking. Tu cliques dessus. Bigger.
On va regarder le classement des filles, de qui
India, et première.
Moi, je suis hyper loin maintenant.
Ah non, t'as zappé. Non, t'es pas si loin.
Un peu.
Si, si. 48.
Ça, c'est depuis Manchester.
Ouais.
Bah, je sais pas.
Non, non, t'es dedans, toi, Kimi.
33. Et moi, je vois, je suis là, je connais.
On commence avec la finale Big Girl, Mia versus Sissi, jeune Big Girl, 15 ans, 16 ans, des lycéennes.
Sergi, pour la finale Big Girl, c'est
donc, MC Malik, qui est là et qui nous met l'ambiance. Concentré, DJ Cléon.
Au platine, DJ Cléon balance le son qu'elle ne connaisse pas.
On fait jouer la pression. Cléon,
la finale, c'est la finale.
A sorti du gros son. Voilà, Sissi. On peut en move. Oh là là. Et avec cette pression, cette responsabilité de représenter sa propre personne, mais de représenter aussi un crew, une ville, un pays.
Sissi remporte Sissi. Le champion de cette Coupe de France catégorie.
Elle a eu sa revanche, hein, Sissi.
Elle a eu sa revanche, bravo elle.
Sissi, Melting Force.
Bravo, bravo à Sia Dembélé, 15 ans.
On va aller parler avec Mathéo, qui nous accorde quelques minutes pendant son entraînement, avec une cheville un peu douloureuse quand même.
Comment ?
cheville un peu douloureuse.
Ouais, parce que je me suis fait une entorse quand on était à Los Angeles, en novembre.
Mathéo, donc 18 ans, je vais me permettre de tutoyer si oui, ça ne te dérange pas. Depuis combien de temps tu appartiens à ce pôle d'excellence, l'équipe de France ?
Alors là, ça fait pas très longtemps, il me semble. Ça fait depuis la rentrée, c'est-à-dire en septembre. Je m'entraîne comme je peux, malgré que j'ai des blessures. Et ça me fait extrêmement plaisir. Quand j'ai commencé le break, il n'y avait pas du tout de Jeux Olympiques. C'était des championnats du monde un peu partout. Mais du coup, il y avait plusieurs championnats du monde, plusieurs champions du monde d'ailleurs.
Ça te fait plus rêver une médaille olympique qu'un championnat classique, on va dire ?
Ah bah oui, largement, parce que tous les grands athlètes ils sont passés par là. Donc maintenant qu'on est reconnu comme sportif de haut niveau et puis juste des danseurs, faut ramener une petite médaille.
Toi, tu te considères comme ça, comme un sportif de haut niveau ?
Bah maintenant, oui.
Avant, c'était plus artisanal ?
Bah avant, c'était un peu bricolé, mais c'était quand même bien, mais... Aujourd'hui, j'aime bien parce que du coup, on bouge beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup plus d'échéances et c'est trop bien.
Tout à l'heure, tu m'as dit j'ai un petit peu mal à la cheville depuis Los Angeles, qui m'a un peu épaté quand tu l'as dit comme tel. Vous avez comme ça des voyages réguliers, j'imagine, pour vous confronter à de la très très grosse concurrence.
Ouais, moi cette année, je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé aux États-Unis, en Angleterre, au Danemark. Et là, en janvier, je dois partir au Brésil. Je suis invité au Brésil pour une compétition 1 contre 1. J'en ai gagné pas mal des battles internationales ces derniers mois, donc je suis super content. C'est trop bien, c'est énervé.
De toute façon, là, c'est pour ça, c'est 2023, c'est cette année, les gars. Que ce soit pour les Jeux ou pas, c'est cette année, hein, le level 1. Faut exploser, là, frère, tu vois. Non, voilà, c'est cool. Willy, ça va ?
C'est la fin de l'entraînement. Tout le monde est... parti chercher ses affaires, s'est rué sur son portable pour voir les messages qui sont tombés durant ces 2h30 d'entraînement.
L'équipe Enzo, Matteo, levez.
Il y a même un danseur en train de dormir dans un coin là. Il vient de se faire réveiller.
Il y a David ce matin qui avait. Enfin, vous avez fait les ateliers avec David Eliamine et il y avait une partie qui est.
Alors, récup protocole respiratoire.
Récup protocole.
Un petit truc pour vous booster. Voilà. Pour récupérer plus rapidement. Donc, on va le faire là. Comme ça, vous l'aurez en stock. Vous venez là, vous allongez. On va le faire. On va d'abord. Revenez par là, comme ça, vous allez d'abord. Je vais vous présenter le protocole. Et puis après, on pourra. Alors, premier exercice. On va travailler sur la ventilation. D'accord ? Donc, l'idée, c'est d'être capable d'inspirer le plus rapidement possible le maximum d'air. Donc, gonfler ses poumons en un instant. Donc, ça fait. Et je relâche.
C'est ça, mais il faut up le level de ouf. Non ?
Il n'est pas le seul, l'entraîneur, à penser que le breakdance est une occasion à saisir. Lorsqu'en décembre 2020, le Comité international olympique décide de désigner le breakdance sport additionnel de référence, c'est avec l'idée de donner au jeu un souffle nouveau et un écho numérique. Pour comprendre, direction l'INSEP à Paris, l'Institut du sport a créé en septembre un pôle d'entraînement spécifique. Et c'est ici que Vanessa Descoureaux a rendez-vous avec Éric Monin, vice-président de l'Université de Franche-Comté. Il préside aussi le Centre d'études et de recherche olympiques et universitaires.
Interception sur France Inter.
En intégrant le break dans le giron olympique, que cherche le CIO ?
C'est tout simplement de conquérir ou de faire venir un nouveau public et d'attirer une nouvelle génération. Parce qu'il faut rappeler que la 33e Olympiade de Paris 2024, il y a à mon avis 4 concepts majeurs. Il y a un concept qu'il faut que ce soit des jeux jeunes, qu'ils soient urbains, qu'ils soient populaires et également qu'ils fassent une espèce de show. Eh bien, le break correspond totalement justement à cette volonté du CIO d'intégrer une génération nouvelle à des pratiques quand même, je pourrais dire, beaucoup plus ancestrales telles que la lutte et bien d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé. Le sport a changé. Le système des organisations a changé. Aujourd'hui, le sport se partage. Mais se partage où ? Eh bien, tout simplement sur les réseaux. Il suffit de dire que quand même, lorsque la Fédération internationale a proposé le dossier de candidature pour intégrer le break, notamment en sport additionnel à la 33e Olympiade, eh bien, en quelques jours, cette vidéo a été vue plus de 5 millions de fois. C'est important, je pense, pour le CIO, pour le sport en général, de prendre en compte ces nouvelles pratiques. C'est pas vouloir rajeunir, c'est s'adapter au temps présent. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a eu quand même un galop d'essai. Ce gala d'essai, c'est 2018 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, où ces Jeux ont été en quelque sorte un laboratoire. Savoir comment, en quelque sorte, eh bien, ce break allait être reçu, notamment dans la communauté break. Parce que, évidemment, en intégrant une institution, on intègre également eh bien, un règlement, des codes, qui peuvent peut-être parfois perdre pour certains, eh bien, dans la communauté break, eh bien, une certaine forme d'indépendance ou de liberté.
Ladies and gentlemen, this is an ode to the B-boy, B-girls, the people out there who do it for the love. And believe me, I'm not dissing anybody out there who's trying to get paid. I'm trying to get paid too. But I got one question. Whatever happened to the heart that pumped the passion into the art? The entity that gave you the energy to want to start? Right dancing, mama battling, doing it in the park where the mission was expression, not only the top charts. I don't know what happened, wanting to blow rap and you lose soul and passion for the flows and the tracks. Radio's lacking, controlled by fascists. Assholes doing damage, but we're gonna take it back.
L'une des voix les plus critiques s'appelle Yuval, à 52 ans. C'est un historique du breaking en France. C'est un maître de cérémonie très demandé, autrement dit, un speaker qui anime bon nombre de soirées ou d'événements. Et pour lui, le breaking n'a qu'un terrain de jeu, c'est la rue.
Il s'appelle Yuval.
Je le connais, c'est avec lui que j'ai rendez-vous.
Je le respecte beaucoup. Il fait beaucoup pour la culture hip-hop. Voilà.
Là, il est en train de danser, je ne vais pas le déranger, mais je vais l'interroger.
C'est un passionné, je le confirme. Vraiment.
Je ne crois sur parole.
Bistro.
Et nous donne rendez-vous au 104, qui est un lieu culturel de l'Est parisien, où des danseurs, d'ailleurs, qui pratiquent tout type de danse, viennent s'exprimer, puisqu'un grand espace leur est dédié.
Là ici, c'est un endroit où il n'y a que les danseurs. Mais toutes les origines, lui, c'est le Cameroun. Lui c'est Cameroun, lui c'est l'Algérie. Enchanté, là-bas c'est le Brésil. Derrière c'est Matisse, c'est l'île de la Réunion. Lui, quel pays ? Centrafrique ?
Wakanda.
Wakanda, c'est le W. Ouais. Mais en vérité, quel pays à part le Wakanda imaginaire ?
Mali.
Le Mali. Voilà,
vous êtes comme à la maison là.
Ici ? Ben, partout je suis à la maison. Tout le monde me connaît. Ben, même dans le monde, tout le monde me connaît, mais. En France, je fais partie des anciens super présents. Et t'es présent parce que tu danses avec les jeunes. Sinon, j'arrive pour leur dire j'étais là avant. Ils vont m'écouter, mais c'est un respect consensuel. C'est pas le vrai respect. Le vrai respect, c'est quand tu danses avec eux. Que tu sois fort ou pas. T'as vu, moi je prétends pas être le plus fort, mais par contre j'y vais. Je mets du cœur. Alors j'y vais. Hein. J'y vais, je crois en moi.
Yuval, vous êtes la voix, le visage du breaking ici en France.
Ouais.
Et quand on a préparé cet entretien, tous les deux au téléphone, vous m'avez dit, pour moi, les JO, c'est comme un mariage forcé. C'est une union sans consentement.
Moi, je sais le hip-hop qu'il y avait avant les JO. Donc, le hip-hop qu'il y avait avant les JO, c'était à peu près 1500 événements par an en France. Donc, ça veut dire que c'est une culture qui était déjà structurée avec beaucoup d'événements, des écoles de danse qui sont créées, des associations qui mettent en place des événements. Enfin, je veux dire, c'est une culture qui est vivante et ça bouge constamment en perpétuelle mutation. On nous annonce qu'il y a les JO, d'accord, mais à quel prix ? Ça dénature le hip-hop. C'est trop académique, trop institutionnel, trop sportif.
Qu'est-ce que le hip-hop perd avec les JO ?
Ben, le hip-hop, il perd surtout la culture. Parce que pour les JO, c'est un sport additionnel. Et nous, on n'est pas un sport. Il y a une différence entre le sport et l'artistique. Et de toute façon, la plupart des gens qui donnent des cours de danse, ils ne se considèrent pas comme des sportifs.
Mais comme des artistes.
Comme des artistes. Il y a une petite notion au sport, parce qu'il y a l'effort, ce que tu as envie derrière. Mais en aucun cas, on est des sportifs. Moi qui travaille sur les jeux de la francophonie, à côté de moi, j'avais des mecs qui faisaient du judo, d'autres qui faisaient du poney, d'autres qui faisaient du football. Enfin, on n'avait rien à se dire, on va pas se mentir. À un moment donné, on était dans la même manifestation, mais on était chacun dans notre univers. Notre monde, c'est la danse. Et il y a beaucoup à faire déjà dans la danse.
C'est la danse, c'est une culture dure, c'est une culture violente à l'origine.
C'est une culture où, en fait, avec l'olympisme, on est en train de dénaturer la mentalité. Nous, on s'entraîne pour l'amour de cette culture, mais il faut que ça reste propre à ce qu'on est. Et le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup de compétiteurs, mais ils n'ont pas la mentalité. Ou alors, ils ne l'ont plus. Et la mentalité, elle est violente. La mentalité, c'est dans cette culture...
Qu'est-ce qu'il y a de violente ?
Qu'est-ce qu'il y a de violente ? C'est que si demain, tu étais dans un monde... si tu étais demain dans un cours académique, contemporain, jazz, ce que tu veux, si demain, il y a un jugement sur un événement et que tu n'es pas d'accord avec le jugement, tu ne vas jamais défier ton prof. Ça n'existe pas. Alors que nous, dans la culture hip-hop, c'est l'art, à un moment donné, de la contradiction, et c'est l'art, à un moment donné, c'est le message. Je suis pas d'accord, et ben à un moment donné, je te le dis ouvertement. Et le conflit, c'est la danse. Parce que nous, on règle les conflits à travers notre art. Donc il faut danser. Et donc tu vas aller chercher un juge, Et puis lui va devoir se lever parce qu'il n'a pas le choix et va devoir justifier sa place. En fait, personne ne fait l'unanimité, ça n'existe pas. Moi, j'ai 52 ans, n'importe lequel qui n'est pas content, je le fume, je le rentre dedans direct. Tout de suite, n'importe qui. Et c'est comme ça que je suis respecté. Je ne suis pas respecté parce que je suis un speaker. On n'en a rien à foutre que je sois speaker. Dans la culture hip-hop, tu es respecté parce que tu es un lion, tu rentres dans le cercle et tu défends le terrain. Mais en même temps, quand tu défends le terrain, tu défends ton nom et les gens qui t'aiment et qui croient en toi. Parce que c'est ça la mentalité. Et si aujourd'hui, tu es dans les JO, tu verras personne aller défier un juge. Et même les juges, ils font même pas de démo. C'est pour te dire, où on va là déjà. Déjà, ils ont cassé un code. Les juges, quand ils dansent, c'est pour dire je sais de quoi je parle. Si tu fais pas ta démo de juge, mais mec, t'es juste là pour prendre ton oseille. Non, non, le hip-hop, c'est violent, ça vient de la rue. C'est une culture qui vient de la rue. Tu veux la respectabilité ? Va chercher des gens, porte tes couilles, montre que t'es présent, montre que t'es une tête, montre qu'on doit te respecter. Parce que sinon, t'as un mec qui danse, mais t'as pas d'histoire. Et nous, je te le dis, dans cette culture, on n'est pas content de tout ce qui se passe en ce moment avec les JO. Parce qu'en vérité, ça ne nous ressemble pas.
En résumé, le CIO, le Comité Olympique International, a beaucoup à gagner en intégrant le breakdance, mais le breaking lui a beaucoup à perdre, en résumé. Et la culture qui va tout autour.
Ben, en fait, ce qui est bien pour nous, c'est juste tout ce qu'il y a à côté des JO. C'est-à-dire des marques qui vont commencer à nous regarder, des mairies qui vont se dire « Ah, c'est pas si mal ». Aujourd'hui, on est devenu une culture d'utilité publique. Donc tout a changé. Mais les JO, ils se sont dit « Putain, merde, à un moment donné, il faut dépoussiérer le game ». Parce que c'est vrai que les JO, ils attirent de moins en moins de monde. Donc, il faut des activités ou des disciplines un petit peu novatrices. Nous, on est une culture. On n'est pas un sport. Et les JO, ils essaient de nous ramener dans une discipline qui est sportive. Donc, tous ceux qui participent aux JO, c'est des breakers sportifs. C'est du break sportif, ce qu'ils font. Et nous, on défend le break culturel. Ça n'a rien à voir. Les mecs, vous nous emmenez droit dans le mur. Vous pensez que pour ce que vous faites pour la jeunesse, ça va être bien. Mais vous enlevez la sève, vous enlevez le sang, vous enlevez l'ADN de notre culture.
Ce soir, c'est la Coupe de France de breaking à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Il y a eu des qualifications un petit peu plus tôt dans la journée. Et ce soir, ce sont les 8 meilleures danseuses et les 8 meilleurs danseurs qui vont s'affronter. On va évidemment retrouver certains membres de l'équipe de France qu'on a rencontrés un peu plus tôt dans ce reportage. Et tout ce beau monde est en train de danser devant 1500 personnes dans un show assez bien rodé d'ailleurs.
Moi je m'appelle Anthony Monzamir, mon nom de scène c'est Tony Taz, c'est mon nom de danseur. J'ai 44 ans, je fais de la danse hip-hop depuis très très longtemps. Je m'entraînais à l'époque à Châtelet-Léal aux alentours des années 2000, c'est là vraiment que j'en ai fait mon métier. Et donc maintenant je suis professeur de danse hip-hop à Paris et à Versailles. À Châtelet-Léal, les gens s'arrêtaient quand ils allaient au cinéma ou dans d'autres endroits. Ils nous regardaient, des fois c'était bizarre, mais moi j'étais fier de cette identité. Ouais, je viens de la rue, qu'est-ce qu'il y a ? Et pourtant je fais de la danse. Et je fais du break, je tourne sur la tête, voilà, je suis tac tac, voilà. Mais j'ai toujours été fier de ça.
Fier de ça et en même temps vous adoubez complètement le cheminement fédéral
pour la discipline. Totalement, totalement, parce que je sais très bien qu'on va gagner en visibilité.
En respect ?
En respect, ça c'est évident. Quelque chose de vraiment important qu'on va gagner, c'est la cohésion. Moi, je trouve que cette discipline, c'est une belle discipline. Elle appartient à tout le monde et plus maintenant, forcément, à la rue. C'est vraiment un truc. Moi, j'ai été dans la rue pour apprendre. J'ai fait ça pendant très longtemps, spectacle de rue, etc. Mais j'ai toujours vu au-delà de ça. On peut venir de n'importe où. La danse est accessible, le break est accessible à tous et à toutes.
Et voilà, ils arrivent. Cette Coupe de France qui oppose donc Kylian à Willy.
Et on voit ce petit face à face, hein, comme tu disais, version sport de combat.
Donne de la force, c'est Malik, donne le ton également de
alors
ce, de
on
ce
les
duel.
A vu, hein, ils se sont congratulés, hein, ils se sont serré la patte, comme on dit. Mais maintenant,
c'est la guerre.
C'est parti. Encore une fois, ce travail autour des power moves, on voit les têtes, les bris, les coupoles. Fait de manière simple, efficace, tranquille, comme si c'était facile. Allez, c'est parti, la réponse avec Kylian. Le sourire aux lèvres. Ce mélange de foot
victoire qu'un pouvoir mouvre et de prise. Ces mouvements arrêtés.
Ce sont un peu les bases de chaque passage.
C'est ça. Deuxième passage, et ça passe à tout.
En acrobatie.
Eh oui. En fait, c'est les acrobaties, voilà, avec cette énergie hip-hop qui est importante. Voilà, avec le travail autour de la musique.
Le travail de la musique, absolument. Très important.
Et c'est parti aussi.
Acrobatie de Kylian.
C'est très malin d'avoir répondu en acrobatie aussi. Hein. Je vais dire aussi, ben, moi aussi je sais faire et maintenant je vais te montrer ce que je sais aussi faire, qui m'appartient.
Et voilà. Ça garde le sourire.
Ça garde le sourire et ça je dis, c'est terminé. Yasmine, on voilà, en a fini.
On en a fini avec cette Coupe de France qui va remporter.
Magnifique.
Le titre de champion de cette Coupe de France catégorie B-Boy, on va le savoir dans un instant. Est-ce que c'est Kylian? Est-ce que c'est Willy?
Et maintenant, on va avoir droit à un compte à rebours, il me semble.
On va le savoir dans un instant. Le jury, je pense, est encore en train de débattre. Voilà. Alors.
Est-ce que c'était pas facile pour les jurys?
Coupe de France, Sergi.
Ils sont au total de 5.
Attendez avant les résultats.
Ils ont 3 faders sur leur tablette.
Si
qualité physique, qualité artistique et l'interprétation.
À quel niveau vous avez kiffé? Attention, 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 c'est parti.
Ça y est, on a les résultats avant même le décompte.
Yasmina Benbekaï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la voix, la spécialiste du breaking en France depuis combien de temps?
Depuis 25 ans spécialiste breaking, mais ça fait pas longtemps qu'on entend la voix, ma voix en commentaire, parce que les battles auparavant n'étaient pas commentés. Or, depuis l'annonce de l'arrivée du breaking au JO, certains battles sont diffusés sur des chaînes de télévision, et donc du coup il faut décrypter, il faut vulgariser et expliquer les codes du breaking.
La retransmission télé, ça a changé. L'arrivée des sponsors toutes récentes, ça a changé. Qu'est-ce qui se passe dans le breaking? C'est l'endroit où ça marche? C'est l'endroit où il faut être en ce moment?
Ça a toujours été l'endroit, ça a toujours été, ça a toujours marché. Le breaking existe depuis 40 ans. Il y a toujours eu beaucoup de pratiques un petit peu partout, dans la MJC, dans les écoles de danse.
Mais cette visibilité quand même.
Pas cette visibilité, exactement, puisque donc on a annoncé en décembre 2020 que le breaking arrivait au JO à Paris en 2024. C'est ça qui change tout, absolument.
Cet intérêt, cette nouvelle visibilité, c'est une bonne chose, uniquement une bonne chose pour la culture break, ou il y a quand même des côtés où on se dit on va perdre de quelque chose?
Non, c'est uniquement une bonne chose. C'est uniquement une bonne chose que ces b-boys et ces b-girls, que ces athlètes, que ces danseurs, que cette culture soit mise en lumière. C'est vraiment une bonne chose parce qu'ils sont gardiens de leur propre culture, donc ils savent se défendre aussi si toutefois on a l'impression qu'ils sont récupérés. Non. Ils savent ce que c'est que cette culture hip-hop, ils savent ce que c'est que cette discipline, ils la connaissent, ils connaissent l'histoire de cette discipline, donc personne ne peut leur enlever ça, et donc ils sont là aussi pour défendre cette culture, tous un par un.
Et l'arrivée des sponsors, c'est de tout temps ou c'est effectivement lié justement à cet emballement olympique?
Complètement lié avec cet emballement olympique. Hein. L'arrivée des sponsors, ils n'étaient pas là avant. Hein. Voilà. Donc, B-Boy Danny, qui est champion d'Europe, et aide-soignant, il a 2 enfants. Il ne peut évidemment pas travailler sa danse si tous les jours il doit aller au travail et s'occuper de ses enfants après son travail. Donc la bourse qu'on va lui donner va lui permettre de faire une pause au niveau de son travail. C'est ça qui va l'emmener peut-être au JO à Paris 2024. Donc moi je trouve ça super que les b-boys et les b-girls puissent en profiter. C'est pour ça que cette lumière, elle est complètement bénéfique. Ça va Malik? C'était super?
L'histoire de la musique attribue généralement la création du style breakdance à Clive Campbell, alias DJ Kool Herc, organisateur de soirées dans le Bronx des années 70 à New York. Mais l'apparition des battles de danse coïncide aussi avec la volonté de trouver des solutions pacifiques aux affrontements entre différentes bandes, différents crews américains. 50 ans plus tard, le volet social est toujours présent dans les esprits. C'est à Toulouse que nous retrouvons Vanessa Descoureaux à l'intérieur de la première école de breaking ouverte en France et créée par Abdel Chouari, 38 ans, 4 fois champion du monde. Il transmet aujourd'hui le breakdance à près de 200 élèves.
Alors moi c'est Abdel Chouari, on est ici à la Breaking School, première école de breakdance en France.
Vous auriez aimé hein, vous apprendre dans une école comme celle-ci, comme cette école que vous avez créée ?
Bien sûr, moi quand j'ai commencé en 1996, moi j'ai commencé dans le quartier où il y avait des plus grands qui pratiquaient dans la rue et on a appris vraiment, la transmission s'est faite comme ça, quoi. Vraiment, il n'y avait pas d'école, de structuration, etc. Mais effectivement, ça aurait permis d'aller plus vite. Mais je suis content d'avoir appris de cette manière parce que c'était beaucoup sur les valeurs, beaucoup sur la simplicité, beaucoup sur le partage.
C'est quoi les valeurs du break justement ?
C'est le respect, c'est apprendre des uns des autres, c'est la tolérance, c'est la mixité, c'est l'unité. Toutes ces choses-là sont vraiment hyper importantes et pour moi, en tout cas, si je prends la casquette de directeur de structure, je vois pas le développement de mon association sans ce côté social, sans les rapports qu'on peut avoir avec les uns les autres. Ne pas oublier que c'est un outil, finalement. C'est un outil qui nous sert à et à plein de choses. On peut le voir, nous, ici, à Breaking School, on a des personnes qu'on a accompagnées parce qu'ils avaient des difficultés dans la vie de tous les jours, grâce au fait qu'on ait appris à se connaître, etc., par la danse, ben, on a pu détecter des petits soucis chez eux. On a trouvé des solutions. On a accompagné, on a intégré, les personnes sont venues en service civique, de ce service civique, ils sont allés à l'emploi, dans le milieu de l'emploi, du milieu de l'emploi, ils ont fait le tour de France sur des spectacles, etc. Donc forcément, c'est par rapport au fait qu'il y a ce côté social qui est important. Personnellement, aujourd'hui, tout va bien dans ma vie, mais je viens quand même d'un milieu qui est très modeste, et j'oublie pas que quand j'ai commencé la danse, ben, c'est parce que j'ai fréquenté aussi des maisons de quartier, qu'on a eu des animateurs qui nous ont accompagnés pour qu'on se structure, pour qu'on aille voir des choses à l'extérieur. Je peux pas oublier. Je peux pas oublier ça. Et dans tout ce que l'on fait, même quand on organise des gros événements, on essaye de penser à tout le monde, on essaye de rendre accessible à tous. Parfois on peut, parfois on peut pas, mais en tout cas on est toujours dans cette volonté et cette politique.
Des tout petits, 4-5 ans initiation au break. On va dans une autre salle où là c'est les 13-17 qui vont partir au Japon bientôt.
Les gars, tout le monde, on se pose 5 minutes. Hein ? On se pose 5 minutes. Tranquillou. Tout le monde, on y va. Donc à partir du 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Magnifique les gars.
Alors les choses sérieuses commencent parce qu'Abdel est avec son groupe de jeunes, ses kids comme on dit, qui vont partir dans quelques jours pour le Japon où se déroule une compétition très importante au niveau international. 9 jeunes de 13 à 17 ans, tous formés ici, qui vont aller représenter la France au Japon. Pour une compétition qui s'appelle The Battle of the Year, le défi de l'année.
À fond. 7, 6, 7, hey!
Pas Mathilde. Hein. Je ne vais pas interroger que des garçons, tu sais.
Je suis d'accord.
Peux-tu te présenter ? Je sais que tu t'appelles Mathilde, mais quel âge as-tu ?
Je m'appelle Mathilde, j'ai 15 ans. Je suis au lycée, du coup, je suis en première. Et je pense que ça fait 8 ans que je fais du break, je crois. Voilà.
Comment t'es tombée dedans ?
Alors, en fait, depuis que j'étais petite, moi je savais que j'aimais danser, genre peu importe, sur du Michael Jackson, des trucs comme ça, tu vois. Et puis Vers 6-7 ans, je suis tombée sur l'école à Abdel. Et du coup, depuis, je suis pas partie, quoi.
T'es un pur produit de la salle ici. Hein.
Oui, voilà, j'ai jamais fait ailleurs. C'était qu'avec Abdel depuis le début. Et c'est pour le meilleur, puisque j'en suis là maintenant. Donc voilà.
Tu en es là, c'est-à-dire à quelques jours du départ pour le Japon, où, mine de rien, du haut de tes 15 ans, tu vas représenter la France avec tes copains et ta copine. Ça veut dire quoi de représenter la France dans une compétition internationale de ce niveau-là?
En fait, c'est vraiment gratifiant pour que ce soit pour moi ou pour mon équipe en général, parce que c'est vraiment significatif, c'est super symbolique, parce que moi, depuis le début, j'ai travaillé depuis le début en fait, et là, c'est un peu le fruit du travail, quoi. Du coup, voilà.
Sans le break, tu aurais imaginé qu'un jour à 15 ans, tu irais aller voyager au Japon, représenter la France, ou il n'y a que le break pour te permettre ça?
Enfin, en fait, sans le break, déjà, je ne voyagerais pas autant. Marseille, Montpellier, on avait plein de trucs. Et du coup, sans le break, j'aurais jamais fait tout ça. Ça, c'est sûr et certain.
Donc, c'est plus qu'une discipline?
C'est une passion, en fait. C'est vraiment c'est plutôt un mode de vie pour l'instant. Enfin, en dehors de ça, je fais pas grand-chose à part l'école, etc. Enfin, genre, je sais que je rentre chez moi, je fais mes devoirs et quand j'ai terminé, je vais direct au break, etc. Moi, je dirais que si on veut vraiment se mettre dedans, c'est plus un sport et c'est vraiment un mode de vie, une manière de penser, etc. Parce qu'il y a toute une culture qui se rattache à chaque fois.
T'as évoqué les Jeux Olympiques, précisément. Toi, ça t'intéresse de voir des big girls et des big boys sur la place de la Concorde dans 18 mois?
À titre personnel, je trouve ça vraiment bien parce que ça prouve que le break il va ailleurs que simplement dans les rues ou dans les gares, etc. Mais d'un autre côté aussi, ça peut un peu démystifier la chose dans le sens où le break, maintenant, c'est beaucoup plus commercial et donc on perd un peu ce côté authentique qui est dans les rues depuis le début, quoi. Mais après, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que ça montre que... Ça montre que le sport en 2022 il devient beaucoup plus inclusif et que ça prouve qu'on avance.
Qu'est-ce que je vous souhaite alors pour le Japon?
Je vous souhaite de gagner. Hein, écoute.
Il faudra me donner des nouvelles, moi je ne vais pas vous suivre, on n'a pas le budget pour ça. Les jeunes qui vont partir au Japon, c'est des jeunes que vous connaissez depuis tout petit? C'est des purs produits que vous avez formés exclusivement?
Exactement, tous les jeunes qu'on a dans le collectif, c'est des jeunes qui sont sortis à 100% de Breaking School, donc de ma formation. Ça, c'est une vraie fierté, puisque c'est des jeunes que j'ai eus, ils ne savaient pas danser. C'est-à-dire qu'ils se sont inscrits à des cours pour découvrir le hip-hop. Et aujourd'hui, on les a poussés vers... parce qu'ils avaient un potentiel. Ça, c'est une grande fierté de ne pas avoir triché, de ne pas avoir pris des gens à droite, à gauche pour faire une team qui est forte. Et c'est ce que je dis, on y va, on gagne ensemble, on perd ensemble.
Cette école, vous l'avez ouverte il y a combien de temps ?
Breaking School a été ouvert en 2008, donc aujourd'hui on a presque 15 ans. J'avais fait le constat qu'il n'y avait aucune école dédiée à 100% au break.
Qu'est-ce qui a changé dans le milieu en 15 ans? Beaucoup de choses j'imagine. Est-ce que le public est le même, tiens, déjà, le public de votre école?
Non, le public, le public a toujours été plus ou moins intergénérationnel. Ça, je parle plus là pour quand on organise des événements, ça n'a pas trop changé. Sur la fréquentation dans les cours, pour être honnête, dans les cours, on a autant de filles que de garçons. On a les parents d'élèves sont dans des catégories sociales et professionnelles très diverses. Donc c'est assez éclectique et c'est bien comme ça.
C'est mélangé. Avant, c'était plus sectorisé.
Avant, c'était simplement, on avait beaucoup de gens qui baignaient dans le hip-hop. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a des gens qui sont attirés, mais qui sont pas forcément de cette culture et qui veulent découvrir. Et souvent, c'est les parents qui les amènent à un spectacle. Et du spectacle, ils veulent s'inscrire après, etc. Donc, honnêtement, ce qui a changé, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on est plus visible. Et il va y avoir encore plus de visibilité avec l'effervescence qu'il y a sur les JO. Et c'est ce que je trouve intéressant dans les JO, c'est que ça va nous permettre à nos écoles et à nos associations tout simplement de se développer.
Les gars, vous dites au revoir et merci.
Au revoir.
Merci à tous et je croise les doigts pour vous et je prendrai des nouvelles.
Les filles.
Et puis soyez forts, soyez bons et éclatez-vous surtout parce que je pense que c'est l'essentiel. Merci infiniment pour l'accueil. Soyez bons. Salut.
All right. On stage, Battle of the World of Florida 2022. 皆さん楽しむ準備できてますか?
Yes, 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 yes.
Yo, 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 yo,
yo. DJ, you ready?
Judges, ready?
Judges, you ready?
Crowd, are you ready?
Dancers, you ready?
Dancers, ready?
It's about to go! Let's turn it on!
Let's go!
Let's turn it on!
Let's go!
Let's turn it on!
Let's go!
Vanessa, c'est Mathilde. Du coup, là, on rentre à peine du Japon et je viens te tenir au courant que nous avons gagné. Donc, on est champion du monde, ça y est. Ça prouve que tout cet investissement personnel et tout cet investissement, que ce soit de la part de nos coachs ou de nous-mêmes personnellement, ça prouve vraiment que ça n'a pas servi à rien et honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Ce qui va le plus me marquer dans cette victoire, je pense, c'est quand on était tous alignés et que le juge focus, il m'a levé la main, clairement, parce que c'était moi à qui on tenait la main. Parce que c'est vraiment un moment ultra, je trouve vraiment émotionnel et je trouvais vraiment que ça représentait ultra bien comment on a vécu tous la victoire. C'est vraiment genre ce moment où focus me tient la main et me lève la main.
Breakdance de la rue aux Jeux Olympiques, un reportage de Vanessa Descoureaux, prise de son Nicolas Mathias, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Marie Le Peintre et Frédéric Changenet. Ce reportage est à réécouter dès maintenant sur franceinter.fr.